secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Lily Anvar, avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Michel Mestre. Aujourd'hui, nous recevons le rabbin Pauline Beb pour nous parler de ce que la tradition juive peut nous apporter comme richesse spirituelle à vivre au jour le jour. Vous avez été la première femme à être ordonnée rabbin en France en 1990, ce qui était et reste tout de même une originalité et un défi sur bien des plans. Défi pas toujours très simple, mais enfin que vous relevez quotidiennement. Et en 1995, vous avez créé avec Rémi Schwartz la communauté juive libérale, CJL, implantée dans le 11e arrondissement de Paris. Cette communauté adopte le nom Ma'ayan, je ne sais pas si je le prononce bien, qui signifie en hébreu la source, et ouvre une nouvelle synagogue en mai 2006. En fait, c'est à la fois un centre culturel, dans lequel on peut même trouver, par exemple, des cours de philosophie, mais, et en même temps, évidemment, un centre de vie spirituelle, pas seulement rituel, mais vraiment un centre de vie spirituelle. Et vous avez publié, justement, un certain nombre d'ouvrages, dont Isha, Dictionnaire des femmes et du judaïsme, chez Kalman Levy en 2001. Qu'est-ce que le judaïsme libéral, justement, dans lequel vous vous expliquez sur ces questions, toujours chez Kalman Levy en 2006. Et puis avec Catherine Ben Saïd, vous avez publié un livre au très beau titre, « L'autre, c'est infini », aux éditions Robert Laffont en 2013, chez Actes Sud, donc l'année dernière, en 2014, « À la lumière de ton visage », qui est aussi un très beau livre dans lequel vous racontez un certain nombre de voyages que vous avez fait, des anecdotes. C'est vraiment un livre très beau et très, très agréable à lire. Et vous venez de publier aux éditions Le Passeur, Saisir le merveilleux dans l'instant, une philosophie de la vie au quotidien. Alors cet ouvrage est composé de 54 chapitres assez courts, qui sont en fait autant de sermons ou d'homélies que vous avez faites devant votre communauté. Et donc dans ces chapitres, vous évoquez à chaque fois, donc à l'occasion d'une fête, d'une rencontre, d'une lecture, un aspect de la vie spirituelle et ce qu'en dit évidemment le judaïsme. C'est le contexte qui veut cela. Vous vous adressez donc à une communauté particulière comme rabbin, mais votre méditation a aussi, me semble-t-il, une portée beaucoup plus vaste, plus universelle, et c'est à ce titre que j'ai eu envie de vous inviter aux Racines du Ciel, parce que vous lire, en fait, vraiment invite à réfléchir à la fois sur ce que nous devons au judaïsme, très profondément, mais aussi, plus généralement, sur le sens de la vie, sur le sens de ce que peut être un rite, du comportement éthique, de l'amour, des rapports aux autres, du travail, enfin, en fait, tous les sujets de la vie. Et cette réflexion, je pense, est très nourrissante, qu'on soit juif ou pas, de tradition judéo-chrétienne ou pas, et même au-delà, qu'on soit croyant ou pas. Rien que le titre pourrait être celui d'un livre sur la spiritualité bouddhiste ou la sagesse antique, et j'espère, Pauline Beb, que je ne vous contrarie pas en disant cela.
Pas du tout.
Alors, pourquoi d'ailleurs avoir voulu, Pauline Beb, mettre en livre, en réalité, ces années de sermons ou d'homélies que vous avez délivrées à votre communauté?
Parce que ils sont des temps de rendez-vous. Ce sont des temps de rendez-vous. Je dirais, certains les ont appelés des convocations d'automne. Ces temps de rendez-vous de la communauté ou les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour, où on réfléchit un petit peu sur ce qui s'est passé toute l'année. Alors c'est vrai que ces réflexions sont aussi valables pour le quotidien, mais c'est un moment où d'abord les homélies sont écrites, elles ne le sont pas toujours, on prend le temps d'étudier un sujet, de l'approfondir et puis de le partager avec la communauté et potentiellement avec l'au-delà de la communauté aussi, puisque les textes sont accessibles et ils permettent, comme vous l'avez dit très bien, de réfléchir sur des grands sujets de la vie. Et c'est un peu ma propre philosophie qui apparaît à travers ces textes, en associant le judaïsme et, je dirais, des sagesses du monde. Ça peut être la littérature française que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Voilà, dans la grande tradition des homélies, je vais dire du 19e siècle, où les rabbins étaient formés avec toujours une licence littéraire, en puisant aussi dans la philosophie, en montrant comment parfois les grands courants de pensée peuvent se rejoindre ou ne pas se rejoindre ou différer, parce que ça aussi c'est important, c'est de montrer aussi que chaque religion a son message, son idée motrice, et il ne s'agit pas de dire, absolument pas de dire qu'une religion est supérieure à une autre ou qu'elle détient la vérité, mais tous nous cherchons à donner un sens à la vie en prenant, on va dire, des lunettes différentes, et c'est justement le dialogue de ces différentes visions qui peut être très intéressant.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici aux Racines du Ciel, c'est-à-dire précisément présenter tout ce qui, dans diverses traditions, peut nourrir absolument n'importe qui, même ceux qui ne font pas partie de la communauté, sachant que, en l'occurrence, surtout dans ce qu'on appelle le judaïsme libéral, il y a une véritable ouverture, au fond, à l'altérité.
Oui, il y a une ouverture parce que tous nos offices, le lieu que nous avons construit est ouvert à tout le monde, et parce qu'il y a un véritable enrichissement à s'ouvrir à l'autre, et l'autre qui est différent de soi. Si l'autre est le même, évidemment, c'est aussi important d'avoir des discussions, peut-être entre différentes tendances du judaïsme, mais aussi à l'extérieur, c'est important de pouvoir confronter des idées. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, le judaïsme est le premier monothéisme. Il est à la base, avec sa littérature, la Bible, à la base d'une impression très forte sur nos sociétés modernes, y compris laïques. Et je pense que c'est important de s'en rappeler. On a voulu l'oublier parce qu'il était important de séparer le laïc du religieux pour exprimer une liberté, retrouver une forme de liberté d'expression tout à fait légitime et salutaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de reconnaître à ces textes anciens, comme on reconnaît à la littérature, la philosophie grecque ou latine, des influences dans notre société française, aussi à la Bible. Et par exemple, de noter que le fait qu'on s'interrompe un jour par semaine pour se reposer vient du texte biblique, que l'égale dignité de tout être humain vient aussi du texte de la Genèse. Bien sûr, tu aimeras ton prochain comme toi-même vient du Lévitique. Je pense que c'est très important de retrouver ces racines, comme le titre de l'émission, les racines du ciel, c'est-à-dire les racines de notre sagesse et de ce que nous sommes. Et la Bible en contient beaucoup.
Oui, alors vous avez devancé une question que je voulais vous poser tout à l'heure, mais puisque vous l'avez évoquée, allons-y. Justement, vous avez cité cette phrase que le commun des mortels en pays chrétien attribue en fait à Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'aucuns diraient même que cet l'amour est la grande invention, ou en tout cas le grand apport du christianisme, comme si le judaïsme en avait été privé. Et on a plusieurs fois des auditeurs qui nous ont écrit en disant, mais pourquoi vous dites dans vos émissions que Jésus est celui qui a apporté cette notion d'amour, puisque cette phrase même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est une phrase qui est noir sur blanc, si j'ose dire, dans le Lévitique. Et c'est très intéressant que ce soit dans le Lévitique, puisque le Lévitique a quand même la réputation d'être le texte le plus lourdement juridique, dans lequel vraiment tous les énoncés, tous les interdits alimentaires, etc., avec les châtiments éventuels qui peuvent se suivre du fait de briser la loi, évidemment, qui sont évoqués. Et en même temps, au sein même de cela, il y a cette injonction d'amour universel qui donc n'est pas une invention chrétienne, mais bien une reprise et peut-être une mise en valeur particulière par Jésus, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même dans le Lévitique, et vous en parlez très longuement de cette notion d'amour et de sa centralité dans la pensée et dans la pratique, enfin dans la pensée juive, et peut-être ça devrait être dans la pratique aussi bien juive que chrétienne ou d'autres religions.
Oui, le texte est là donc dans le cadre de ce qu'on appelle un code d'éthique du Lévitique qui dit en même temps qu'il ne faut pas placer d'obstacles, par exemple sur le chemin d'un aveugle, ce qui a été interprété pas seulement de manière littérale, mais aussi de manière métaphorique, c'est-à-dire que dans le monde des affaires, il ne faut pas, lorsque on sait quelque chose, eh bien tromper son voisin. Un conseiller doit être un vrai conseiller et non pas un adversaire. Donc il y a beaucoup d'injonctions dans ce chapitre-là qui ont été à la source d'une éthique universelle déclinée par le judaïsme. Vous parliez de châtiment, évidemment la loi écrite qui est la Bible se lit à la lumière aussi de la loi orale. Heureusement le texte biblique n'est pas resté tel quel, heureusement qu'il y a eu cette loi orale qui l'a atténuée, notamment par exemple pour la peine de mort qui a été quasi abrogée par les rabbins à l'époque talmudique, mais pour beaucoup de versets. Donc lorsqu'on lit la Bible pour un juif, on lit aussi la tradition orale et jusqu'à aujourd'hui, les commentateurs qui font avancer le judaïsme et qui, je le dis encore heureusement, ne restent pas à la lettre du texte, parce que lorsqu'on a une lecture trop littérale, ça devient une lecture fondamentaliste et ça devient très dangereux également, on le sait malheureusement ces temps-ci. Donc il faut lire le texte à la lumière de la tradition orale, mais vous avez raison, l'amour est là et il est là tout le temps, je dirais. Qu'il est là dans la prière aussi centrale de la tradition juive qui s'appelle le Shema, qui veut dire écoute, donc qui affirme le monothéisme, et juste dans la phrase d'après qui provient aussi de la Torah, de la Bible, et il est dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et qu'est-ce que l'amour? C'est toujours difficile de définir l'amour. Le mot Ahava en hébreu vient de la flamme. Bien sûr, la flamme, il faut l'entretenir. Et lorsqu'on nous dit, c'est très difficile de dire aimer son Dieu, comment est-ce qu'on peut ordonner un amour? Et la réponse des rabbins, c'est justement en appliquant les commandements. Donc peut-être la manière de dire les choses du judaïsme est forcément différente de celle du christianisme, mais le judaïsme a vu la loi comme un moyen d'expression de l'amour. C'est-à-dire que quand on parle de loi, on parle d'acte. Lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime », ça ne suffit pas, il faut aussi exprimer cet amour en acte et l'amour du prochain également. Il ne suffit pas de l'aimer, il faut aussi l'aider, il faut aussi avoir des gestes concrets, et le judaïsme a même fait précéder les gestes concrets devant l'amour, en disant que par exemple si quelqu'un demandait de notre aide, demandait de l'argent ou demandait un travail, il vaut mieux lui donner de l'argent et du travail que d'être gentil avec lui. Parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce dont il a besoin. Voilà donc un petit peu l'orientation différente avec, on va dire la polémique judéo-chrétienne dans les premiers siècles de notre ère sur l'amour et la loi. Je crois qu'on l'a un peu dépassée aujourd'hui, mais elle reste puisque les premiers chrétiens... on n'a plus besoin ni des règles du Shabbat, ni de la circoncision, ni de ces commandements qui ont représenté pour ces premiers chrétiens un carcan. Et le judaïsme a réaffirmé la loi comme source de liberté et non pas comme source d'esclavage. Et voilà un petit peu comment les deux grandes religions, grands monothéismes se sont développés avec une vision différente, mais je dirais que le pluralisme est quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il faut toujours considérer l'humanité comme une mosaïque et il faut que chacun affirme ses couleurs de manière forte, sans vouloir porter de l'ombre sur son voisin, bien sûr, mais en étant soi-même, je crois que c'est important.
Oui, et d'ailleurs, ce qu'on lit entre vos lignes, c'est que c'est peut-être même la condition pour qu'un message devienne universel. La condition, c'est que précisément les racines ou la loi ou la tradition ne soient pas trahies. Pour vous, il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de contradiction, mais l'universalité, s'il y a une universalité du judaïsme, et ça, on peut peut-être en discuter d'ailleurs, parce que c'est intéressant, elle ne peut pas être séparée d'une identité forte qui s'affirme aussi dans des traditions et dans une loi.
Oui, je crois que la spécificité du judaïsme, c'est justement de s'exprimer dans l'acte, dans le concret. Le judaïsme n'a jamais séparé l'abstrait et le concret, le spirituel et le matériel. Il a toujours dit que le spirituel se trouvait au sein du matériel, c'est-à-dire au sein de la nourriture, au sein de la sexualité, au sein du travail. La spiritualité était là. Contrairement aux thèses de Platon, par exemple, qui ont beaucoup influencé le christianisme, qui était de dire il faut séparer l'idée de l'image ou du concret, du matériel, et l'idée est supérieure à la matérialité. Et c'est vrai qu'on vit dans la suite de cette idée très très forte qui a influencé non seulement le christianisme, mais après le judaïsme aussi, et puis toutes nos sociétés, en essayant de séparer. En France encore, on considère que le monde intellectuel est supérieur au monde matériel, ce qui ne devrait pas être le cas. En tout cas, enfin, on peut affirmer bien sûr ces idées, mais dans le matériel, pour le judaïsme, il y a la source du spirituel. Et quelle que soit la matière, que ce soit le brin d'herbe, que ce soit pour des gens qui travaillent le matériel, les artistes, le graveur, le sculpteur, à travers la matière se trouve la spiritualité. Et je crois que cette dichotomie dont nous avons hérité, elle est réunie par le judaïsme dans une forme d'unité. Alors oui, je pense qu'il y a le judaïsme a quelque chose à dire à l'humanité, comme d'ailleurs chaque religion, comme l'islam, le christianisme, le bouddhisme, y compris la laïcité. On peut tous apprendre les uns des autres dans le respect, dans l'écoute. Et le message du judaïsme, c'est de dire cela, c'est de dire que nous sommes un. Nous sommes uniques de chair et de sang, et par exemple le mot cœur en hébreu, lev, réunit, c'est le siège des pensées et des sentiments. Et donc c'est intéressant parce que par exemple dans les neurosciences récemment, on a découvert ça, on a dit en fait on peut pas séparer les deux. Et donc c'est une des idées motrices du judaïsme, et aussi de dire que on part du particulier pour aller à l'universel. Cette métaphore du chauffard, c'était la corne du bélier que l'on sonne pour les grandes fêtes, qui était tout simplement une corne qui servait à transmettre des informations. Voilà, à la place du SMS d'aujourd'hui ou des téléphones portables. Eh bien, cette corne de bélier, les rabbins disent, elle est petite hein, d'un côté, elle est large de l'autre. Et si on souffle du côté large, eh bien, on n'obtient aucun son. Si on souffle du petit côté, le son sort. Et c'est comme ça que, avec la pédagogie du judaïsme, on peut commencer par le particulier et aller vers l'universel.
Et en même temps, la tradition intellectuelle, elle est très très encouragée justement dans le judaïsme, cette question de l'étude que même les artisans qui travaillent la matière se doivent de au moins un jour par semaine de se consacrer à l'étude du texte dans sa langue d'ailleurs originelle. On en parlera peut-être de cette importance de la langue, de véhicule de l'hébreu, qui est si beau à entendre en réalité. Bon, c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on en parle. Mais enfin, d'abord, donc cette idée que, en même temps, le judaïsme présente un modèle dans lequel l'étude et l'étude du texte, donc cet exercice intellectuel d'étudier et de commenter, est très très important pour progresser spirituellement.
Absolument. D'abord, c'est un exercice démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut dire quelque chose sur le texte. Le principe, ce qu'on appelle la revruta, c'est-à-dire de travailler, raver, ça veut dire ami, de travailler à deux, à trois. En fait, on ne doit pas étudier tout seul. Et pourquoi on n'étudie pas tout seul? Parce que quand on est seul avec le texte, c'est quelque part un circuit fermé. Alors que lorsqu'on est à deux, minimum deux, trois, quatre, cinq, à ce moment-là, on avance, chacun dit quelque chose, dit un mot, et les mots sont un petit peu comme des strates d'un millefeuille. On ajoute chacun son grain de sel, et ça permet de constituer un plat dont on se délecte parce que chacun y a apporté quelque chose. Et je crois que ça, c'est l'apprentissage, donc apprendre en tissant ensemble et en se découvrant, en mettant beaucoup de soi aussi, parce que évidemment on se lit dans un texte, comme quand on se On se lit dans un livre, on cherche les ressemblances et les dissemblances avec sa propre vie, son propre destin. Et ça permet de grandir. Et c'est aussi, donc je disais, un processus démocratique et un processus d'apprentissage aussi de la transcendance. C'est-à-dire que le texte est un prétexte à aller au-delà de soi, à grandir. Et ça, c'est aussi un des grands principes du judaïsme, c'est que l'être humain doit toujours progresser, toujours grandir, toujours se poser des questions, toujours voir aussi d'un point de vue différent. C'est-à-dire, il y a toujours, vous savez, le fameux mot « se chamailler » qui est venu de l'hébreu en français, vient de ces discussions entre deux grands maîtres, Hillel et Shammai, qui se chamaillaient en permanence. Et c'est-à-dire qu'on pose un principe et tout de suite on voit son opposé. Et même lorsque c'est pas toujours deux personnes, il est préférable que ça soit deux, mais lorsque on est face à une question, on va toujours inviter la thèse et l'antithèse. Alors c'est un processus très philosophique, mais c'est devrait être un réflexe toujours de se dire oui, on peut penser comme ça, mais on peut penser aussi autrement, un petit peu comme on fait le tour d'une sculpture et qu'on voit une perspective différente. Chaque sujet a 1000 perspectives.
Oui, et d'ailleurs, il me semble que vous racontez une histoire, Pauline Bebb, à ce sujet, c'est-à-dire c'est une affaire en même temps d'hommes. Vous avez fait tout à l'heure un très joli lapsus, vous avez dit il faut être Dieu. Non, il faut être deux, évidemment. Racontez-nous cette histoire dans laquelle les rabbins, finalement, excluent même le point de vue de Dieu, parce que ce qui compte, c'est que ce sont les hommes, c'est le consensus qui compte, le consensus entre les hommes sur l'interprétation à donner à tel ou tel aspect du texte.
Oui, c'est une histoire talmudique où des rabbins ne sont pas d'accord. C'est un point très très précis de cache-route. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un four dans quelles conditions? Mais peu importe le sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que des rabbins sont opposés. Et donc, il y en a un qui dit mais je vais demander que Dieu intervienne pour appuyer ce que je vais dire. Et donc, il fait déplacer des arbres, il fait remonter un courant d'eau, il fait pencher même les murs de la maison d'études. Malgré tout cela, malgré l'appui de Dieu, l'appui du miracle, ses compagnons d'études lui disent mais non, en fait la loi, elle n'est pas dans le ciel. Et il cite un verset biblique du Deutéronome, elle n'est pas dans le ciel, mais elle est dans ta bouche. C'est-à-dire que effectivement, la loi, elle est faite pour être appliquée par les êtres humains, pour être humaine, et Dieu n'a pas à intervenir là-dedans. Donc c'est très joli, ça se termine cette histoire par le fait que on demande à Dieu ce qu'il pense de tout ça, et Dieu dit mais mes enfants m'ont dépassé et mes enfants m'ont fait rire. Et donc cette capacité à faire rire Dieu, c'est-à-dire à surprendre même notre créateur, c'est un idéal vers lequel nous devrions tendre, bien sûr.
Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar. Vous parlez d'ailleurs beaucoup de cette question de la liberté de l'homme, c'est-à-dire comme étant aussi un des apports de la pensée juive, de la tradition de sagesse juive, qui met quand même beaucoup l'accent là-dessus. C'est-à-dire la condition même de l'éthique, la condition même d'un quelconque progrès spirituel, c'est avant tout cette liberté donnée à l'homme dès le départ, qui se déploie à l'intérieur d'un cadre légal, parce que sinon d'ailleurs la liberté n'aurait pas de sens, mais enfin qui se déploie par rapport à une loi, mais qui est évidemment tout à fait originelle. Vous évoquez d'ailleurs la Genèse et Adam et Ève mangeant du fruit de la connaissance, et vous l'interprétez comme étant justement cette liberté qui est posée comme le point fondamental, le point de départ fondamental de l'humanité.
Oui, c'est ça, parce que au fond, l'être humain est défini comme un être désobéissant. Désobéissant, mais au fond, on est content qu'il ait désobéi. C'est comme si tout était fait pour... on peut le voir aussi de manière comique, parce que Adam et Ève sont placés comme ça au centre du jardin d'Éden, et on leur dit, vous pouvez manger tout sauf cet arbre qui est au milieu du jardin. On imagine qu'avec des enfants, si on fait ça, voilà, touche à tout sauf au pot de confiture qui est là, la première chose que l'enfant voudra toucher, c'est le pot de confiture. Et effectivement, Adam et Ève sont mis dans cette situation-là de manger, de consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de ce moment-là, ils entrent dans leur humanité. C'est-à-dire qu'ils testent le libre arbitre et ils deviennent profondément humains. Cette capacité à choisir devant un choix, à se dire qu'est-ce que je dois faire, où est le bien, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Ce sont des choix toujours difficiles dans la vie, de savoir où se trouve le bien et d'être responsable de ce choix. C'est-à-dire que l'être humain n'est ni totalement condamné dès sa naissance, ni totalement non plus considéré comme libre de tout ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait une loi qui limite ses actions, mais il a une grande liberté, et c'est pour ça qu'une des fêtes essentielles aussi du calendrier juif, c'est la fête de Pessah, la fête de la liberté. Et c'est une liberté pas seulement pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité. C'est-à-dire que on a la possibilité de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire, de dire, d'exprimer, et c'est tellement important aujourd'hui.
Expliquez-nous peut-être, Pauline Bèbe, plus précisément ce que c'est que cette fête, parce que tous nos auditeurs peut-être ne sont pas au fait de ce calendrier juif, des fêtes qui ont pour vous des significations spirituelles très profondes. On va en évoquer peut-être une ou deux autres.
Oui, donc la fête de Pessah, c'est la fête de Pâques, la Pâque juive, et donc elle se situe à peu près au mois de mars-avril, au printemps en tout cas, puisque c'est aussi la fête du printemps, et c'est la fête de la liberté, c'est la fête qui rappelle la sortie d'Égypte, et les 10 plaies, et cette difficulté à sortir d'Égypte, et c'est une fête fondamentale à tel point que même dans les textes, lorsque on regarde les 10 paroles connues sous le nom de 10 commandements, eh bien Dieu se présente dans la Bible comme étant le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, pas qui a créé le monde, mais qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc c'est comme si c'était un acte fondateur. La loi doit être source de liberté. Il ne s'agit pas d'échanger le pouvoir pharaonique par le pouvoir de Dieu. Et je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui, lorsqu'il y a beaucoup de dictatures de la pensée, notamment religieuses, et qu'on dit qu'il faut se soumettre à un certain nombre de lois. Le judaïsme affirme la liberté fondamentale des êtres humains, bien sûr la loi, mais la loi qui doit être forcément source de liberté. Et cette fête le rappelle avec beaucoup de symboles, un repas familial et avec un plateau, et chaque élément du plateau va rappeler cette sortie d'Égypte.
Mais alors cette liberté, quand elle est exercée par d'autres pour commettre le mal, et Dieu sait que nous avons été confrontés à beaucoup de maux d'une radicalité extrême tout au long de l'histoire, mais en particulier au XXe siècle. Qu'est-ce que le judaïsme nous dit de cela, puisque au premier chef, aujourd'hui, cette communauté est concernée par cette question du mal radical. Donc voilà, quelle est la réponse du judaïsme à la question du mal, à la question du silence de Dieu, au fait que le mal peut se déployer et Dieu ne pas réagir?
Oui, c'est une des questions les plus difficiles, je dirais, qui concerne toutes les spiritualités. C'est comment expliquer le mal. Le judaïsme affirme que le mal a été créé en même temps que le bien. C'est peut-être difficile à digérer, mais il y a une seule source de création dans le judaïsme. Donc Dieu a créé le bien et le mal et a créé ce libre arbitre qui fait que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Alors, la question du mal est posée dans le texte biblique, elle est posée par le livre de Job en particulier, mais par les psaumes aussi, qui s'interrogent comment se fait-il que les méchants fleurissent et qu'ils rencontrent le succès. C'est une question qui a été posée régulièrement à chaque fois que la communauté juive et la communauté humaine a été en deuil, lorsque des pouvoirs sanguinaires ont régné sur l'humanité. Elle se pose à nouveau, bien sûr, à chaque fois que le sang est versé. C'est la contrepartie de ce libre arbitre. Alors, bien sûr, ça questionne sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu qui renvoie aussi à la question du silence de l'être humain, puisque si Dieu s'est retiré du monde pour laisser l'être humain libre d'agir, Dieu ne peut pas réagir à ce qui se passe, et il s'agit de donner aux êtres humains la responsabilité de se prendre en main et d'être responsable des uns des autres, et donc d'essayer de prévenir ces maux.
Puisque nous parlons du mal, je voudrais que nous parlions aussi d'un autre sujet que vous abordez plusieurs fois dans votre livre, c'est la question du pardon. Puisque Yom Kippour, pour lequel vous avez il y a plusieurs sermons en fait qui ont été écrits à l'occasion de cela. C'est la fête du grand pardon, et c'est très étrange parce que dans la doxa habituelle, on pense que à nouveau le pardon est une spécificité chrétienne et que dans le judaïsme il n'y a pas une théologie du pardon véritablement. Vous montrez que pas du tout, qu'il y a une véritable théologie du pardon, et c'est peut-être aussi une façon de pouvoir affronter cette question du mal, Pauline Bebb.
Oui, le pardon est là, il est là, je dirais, au quotidien même. Mais c'est tout à fait normal que le christianisme ait emprunté un certain nombre de thèmes du judaïsme, parce que les religions se créent les unes par rapport aux autres. Le judaïsme a emprunté des religions environnantes, babyloniennes, et il les a transformées. Et le christianisme a emprunté du judaïsme, l'islam aussi, des religions précédentes. Et c'est justement intéressant de voir quels sont les apports de chacun et comment chacun avance et construit sa propre théologie. Alors, le pardon existe même dans la prière quotidienne, c'est-à-dire on demande pardon à Dieu des fautes qu'on peut commettre, on demande d'être capable de pardonner aussi, ce qui n'est pas la même chose. Le mot pardon en hébreu signifie cacher, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, comme si il fallait mettre la main sur quelque chose pour ne pas le voir. Et pourtant, il y a aussi cette idée de repentir, de teshuva, qui est comme une gomme qui nous permettrait de notre vie, de gommer les traits qui nous plaisent pas tout à fait pour réécrire et écrire différemment ce que nous voulons garder sur le parchemin de nos vies. Peut-être la grande différence dans les affirmations, c'est de dire que dans le judaïsme, on ne peut pas tout pardonner. D'abord, Dieu ne peut pas pardonner des fautes que nous avons commises envers notre prochain. Nous devons faire la démarche et demander pardon, et ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que le lien transversal, le lien au voisin, et passe même avant le lien avec Dieu, puisque, comme l'ont dit Martin Buber et Emmanuel Levinas, on rencontre Dieu dans le regard de l'autre. Donc la démarche de demander pardon à quelqu'un est très importante. Et puis, il faut savoir pardonner. Alors, il y a toute une série de règles. On demande trois fois pardon. Si au bout de trois fois on a demandé pardon et que l'autre ne vous a toujours pas pardonné, il faut se considérer comme pardonné, mais bien sûr seulement si il y a eu une réparation, si il y a eu un jugement, et puisque tout doit passer par la justice, et on ne peut pas considérer que si on n'a pas lavé notre responsabilité, qu'on est pardonné. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a été beaucoup discuté par Vladimir Yankelevitch, c'est les limites du pardon.
Oui, dans l'imprescriptif, ce magnifique livre de Vladimir Yankelevitch, oui.
Voilà, et en particulier pour des crimes contre l'humanité, et lui, il parle évidemment de la Shoah, et il affirme d'une manière très, très juive que pardonner l'impardonnable, ça serait quelque part être complice de l'impardonnable. Ça serait dire, finalement, c'est pas grave. Et ça, on ne peut pas. Et c'est là où le pardon sort de l'éthique. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. C'est vrai que ce soit des meurtres, des viols, on ne peut pas demander à quelqu'un de pardonner. Même les mots paraissent tout à fait inadaptés dans ce genre de contexte.
Et on en revient à cette basse continue finalement de l'éthique, de la sagesse juive, parce que je pense que c'est très lié à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que c'est concret, c'est-à-dire il y a des réalités, et c'est vrai que la réalité de crimes abominables, eh bien, c'est d'être impardonnable. Donc il y a une sorte de très grande sagesse des choses telles qu'elles sont, il me semble, dans tout ce que vous dites, Pauline Bebb.
C'est vrai que le judaïsme est très humain. Il ne demande pas de faire des choses qui nous dépassent complètement. Même dans la cèse, il n'exige pas la cèse. Il demande de profiter de la vie. Je pense aussi au rythme par rapport au deuil, par exemple, qui est très proche de la psychologie humaine. C'est une philosophie de la vie qui est très proche de ce que nous sommes en exigeant de nous que nous nous améliorions au quotidien, mais sans demander des choses qui sont tout à fait en dehors de ce que l'on pourrait accomplir.
Et alors, on a parlé de Yom Kippour, juste en commettant la fête du grand pardon, rappelez-nous aussi, contextuellement en fait, quelle est l'importance de cette fête pour la communauté, mais aussi pour la communauté juive, mais aussi pour la communauté humaine, au fond, parce qu'elle nous dit quelque chose sur nous-mêmes. Elle nous invite à faire quelque chose qui est ce retour vers soi.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous donc qui se situe presque au début de l'année pour nous, mais ça correspond à septembre-octobre. Donc quelque part, c'est une rentrée pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là où on va regarder derrière nous et on va se demander ce que l'on a fait dans l'année passée. Et puis ce qu'on a envie de changer en nous, qu'est-ce qui nous plaît pas tout à fait, où est-ce qu'on a chuté, où est-ce qu'on est tombé, comment on voudrait se relever. Et c'était une journée qui est hors du temps, et parce qu'on jeûne, parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on est en communauté. Et c'est ce moment où on va donc à la fois dans un double regard se retourner derrière soi et puis construire l'avenir. Et ça aussi c'est un thème du judaïsme, c'est-à-dire que c'est en apprenant les leçons d'histoire qu'on construit l'avenir et qu'on se construit soi-même on fait un point en quelque sorte, et c'est quelque chose qui peut parler à l'humanité entière.
Donc vous avez dit, ça s'adresse évidemment à une communauté, mais aussi à la communauté des hommes, et j'ai l'impression très souvent quand j'entends cette phrase si célèbre que l'on connaît même en hébreu, même quand on ne sait pas l'hébreu, qui est Shema Israël, donc écoute Israël, dont on a à nouveau très souvent l'impression qu'elle s'adresse directement à un peuple, hein, écoute Israël. Mais j'ai été plusieurs fois dans des offices, en particulier avec Delphine Horviller, que je crois vous connaissez bien, et quand j'entends ça, Shema Israël, dans une synagogue, j'ai l'impression que ça s'adresse à nouveau à l'âme humaine, à la communauté humaine dans son ensemble, et qu'il y a quand même cette idée très forte, bizarrement, alors que ça part d'un peuple élu, si je puis dire, que finalement c'est l'humanité entière qui est ce peuple élu et qui doit écouter la parole divine.
Oui, la question de l'élection, elle est très très complexe. Encore une fois, si on reprend cette image du chauffard, c'est-à-dire la corne de bélier, c'est un message qui passe par un petit peuple, tout petit, 0,24% de la population mondiale aujourd'hui, et qui effectivement qui s'adresse, qui peut s'adresser au plus grand nombre. C'est pas une question de prosélytisme, et le judaïsme n'a jamais voulu convertir l'humanité à ses croyances, mais c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent s'adresser. Dans le Écoute Israël, bien sûr, ça peut s'adresser à soi, ça peut s'adresser à la communauté juive, ça peut s'adresser à l'humanité parce que d'abord c'est l'affirmation du monothéisme, et je dirais l'idée essentielle que représente le monothéisme, c'est que on n'a qu'un seul référent, un référent éthique et moral, même si on ne croit pas en Dieu, il n'y a qu'une seule éthique, même si nous en avons aussi des visions différentes, mais ce référent unique, c'est quelque chose de fondamental, et c'est un progrès de l'humanité. Et puis aussi parce que dans cette injonction à l'écoute, il y a quelque chose que tout le monde peut entendre, et c'est pas un jeu de mots, c'est-à-dire que j'ai lu il y a peu de temps un commentaire sur le fait que souvent les personnages bibliques sont appelés deux fois, Abraham, Abraham. Et alors, la première fois, le commentaire disait, c'est lorsqu'on entend son nom, on écoute, on est appelé à l'écoute, et la deuxième fois, on est appelé à entendre. Et ce n'est pas la même chose. Et je crois que notre monde manque de manière essentielle et fondamentale d'écoute, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui sont prononcés, mais on ne sait plus s'écouter. On s'écoute parler, mais on n'entend plus l'autre. Et parce que finalement, c'est un exercice d'entendre l'autre, d'entendre véritablement ce qu'il dit parfois derrière les mots, dans le langage de l'âme, le langage des yeux. Très vite, on s'échange des ça va, ça va, et on ne va pas au-delà de ces échanges de politesse. Mais il y a un monde à découvrir souvent dans la rencontre avec une personne. Et c'est dommage de passer à côté. Et finalement, dans les discours qui parallèlement s'affirment et s'annulent sans s'écouter, on a le début de la violence.
Alors, Pauline Baird, nous arrivons à la fin de cette émission et nous n'avons pas encore lu de contes. Alors, vous racontez beaucoup d'histoires qu'on appelle les histoires juives, qu'elles soient drôles, qu'elles soient au contraire très profondes ou très graves. En tout cas, l'histoire joue un rôle extrêmement important sur le plan didactique, sur le plan pédagogique dans cette tradition, pas seulement dans cette tradition, en réalité, je crois que dans toutes les traditions, on utilise le conte pour pouvoir dire quelque chose qu'on ne pourrait peut-être pas dire dans le langage discursif. Alors j'ai choisi pour terminer cette émission un conte qui est rapporté par Patrick Fishman dans son très joli conte des sages juifs, publié au Seuil, dans la collection justement des contes des sages. Et ça s'intitule « La sagesse de l'aube ». Et peut-être que ça résume un peu ce qui a été notre démarche pendant toute cette émission, c'est-à-dire d'entrer dans une discussion dans laquelle on invite l'autre à sa table pour, finalement, pour un festin de sagesse. Le vieux maître avait réuni ses étudiants et d'autres jeunes gens du village pour leur dire au revoir et pour leur laisser une perle à sucer pendant une absence qui pourrait être longue. Voyager aussi loin à cet âge, ce n'était pas sans risque. Aussi ce départ en Terre Sainte avait-il un goût d'adieu. Les visages étaient graves et les cœurs silencieux. « Eh bien, ne faites pas cette tête. Tout à l'heure, si vous voulez me faire plaisir, il faudra danser. J'ai une chose que je souhaiterais vous confier pour que vous en preniez soin. » Un murmure parcourut l'assemblée. Chacun était prêt à veiller sur le trésor du maître. Quand il sortit son mouchoir, il s'attendait à voir apparaître une petite boîte, un livre ou un objet précieux. « Ce n'est pas une chose matérielle que je veux vous confier. C'est une question, une simple question à conserver, à entretenir, à chérir. Mes enfants, quand est-on vraiment certain que la nuit est finie et que l'aube se lève ?»« Quand le premier rayon du soleil apparaît, » dit l'un. « Non. » « Quand le coq chante ?» Non plus. « Quand on distingue une brebis d'un chien ?» dit encore un autre. « Non. » « Un olivier d'un jujubier ?» Eh non !» Silence dans la salle, évidemment. « On est certain, » dit le maître, « que la nuit est bien finie et que l'aube se lève lorsqu'on voit venir un étranger et que l'on sait sans aucun doute qu'il est notre frère. À cet instant, nous sommes illuminés. Qui est sage, l'homme instruit ? Et sage celui ou celle qui apprend de tout homme. » Merci beaucoup, Pauline Bèbe.
Merci à vous.
Nous n'aurons pas le temps de commenter ce conte, mais je crois que les contes, c'est pas fait pour être commentés, mais simplement pour être savourés. Merci donc beaucoup d'être venu nous éclairer sur les dimensions spirituelles et éthiques du judaïsme. Et donc de nous avoir fait part en fait de votre expérience en tant que rabbin, et en tant que surtout en tant que personne en recherche spirituelle. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Saisir le merveilleux dans l'instant, une philosophie de la vie au quotidien, publié aux éditions Le Passeur. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar. La semaine prochaine, je recevrai François Angelier qui viendra nous parler de Léon Blois et de sa mystique de la douleur. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Nous avons déjà évoqué dans ses chemins de sagesse Aristote et Épicure. Je voudrais aujourd'hui parler de la troisième grande école de sagesse de l'Antiquité, qui est le stoïcisme. Aristote et Épicure, on l'a vu, insistent particulièrement sur la notion de plaisir et la notion de vertu, avec l'importance des vertus intellectuelles qui permettent de discerner, la phronésis, qui permettent de discerner ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Et il va y avoir une troisième grande école de sagesse, le stoïcisme, qui va mettre l'accent sur un autre point que nous allons voir maintenant. Alors cette école est née, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle déjà le stoïcisme? C'est à cause du mot stoa, qui signifie en grec le portique, tout simplement parce que le fondateur du courant stoïque se promenait sous un portique. Il enseignait sous un portique dans la rue à Athènes, au tournant du 4e et 3e siècle, et Zénon n'était pas grec. C'était un marchand d'origine chypriote, et du coup il était un peu méprisé par l'aristocratie grecque. Platon, Aristote faisaient encore partie des aristocrates, et donc Zénon va vouloir revenir un peu à la figure socratique de celui qui enseigne dans la rue pour tout le monde, alors que les écoles platoniciennes, aristotéliciennes étaient surtout fréquentées par des gens de la noblesse. Il va vouloir vraiment rendre accessible à tout le monde la philosophie. Les femmes, les enfants, les esclaves, les citoyens, tout le monde doit pouvoir philosopher, et il enseigne dans la rue. Il va avoir un succès absolument colossal, et le stoïcisme d'ailleurs va être un courant qui va marquer profondément tout le monde antique pendant plus de 7 siècles. Il va influencer très en profondeur le christianisme, et on verra plus tard à la Renaissance, lorsqu'on va redécouvrir à partir du 15e siècle les écoles de l'Antiquité, que c'est le courant qui aura le plus d'importance sur la Renaissance, et notamment sur des philosophes comme Montaigne ou Spinoza. Alors, quelques idées essentielles pour comprendre déjà le fondement du stoïcisme. Il y a 4 idées clés. La première idée majeure, c'est que le monde est un. Tout est à la fois matière et esprit, et les stoïciens conçoivent le monde, le cosmos, comme un grand corps vivant, peuplé de correspondances. La deuxième chose, c'est que le monde est rationnel, ce qu'ils appellent le logos, on pourrait dire la raison. Le logos divin sous-tend tout le monde, de part en part, et l'être humain participe à ce logos universel à travers son logos personnel. C'est-à-dire que nous avons en nous une part du divin, un logos individuel qui est relié au logos cosmique, qui fait que la raison participe à la raison universelle. Notre raison personnelle participe à la raison universelle. La troisième chose à souligner, c'est que pour les stoïciens, il existe une loi de nécessité, c'est-à-dire une sorte de causalité universelle qui fixe le destin de tous les individus. Et puis la quatrième chose, c'est les stoïciens affirment la bonté du monde. Ils croient à l'idée de providence, c'est-à-dire tout ce qui arrive advient pour le mieux de tous les êtres. Et si nous trouvons que quelque chose est mal, c'est que nous ne connaissons pas la totalité, évidemment, de la complexité du monde, de l'univers et de tout ce qui s'enchaîne, tout ce qui se lie par les lois très subtiles et profondes de causalité. Donc voilà les idées fondamentales qui fixent, d'une certaine manière, la doctrine stoïcienne. Alors à partir de là, la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique stoïcienne, qui va être aussi une éthique du bonheur, va rechercher deux choses essentielles. D'une part, l'ataraxie, est ce qu'on retrouve évidemment chez Épicure, c'est-à-dire l'absence de trouble. Ce qu'il s'agit, c'est d'accepter le destin. Et la deuxième chose, c'est l'autarkeia, c'est-à-dire l'autonomie, qu'on pourrait définir comme la liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux, absolument, c'est la liberté d'acquiescer à la nécessité du destin. Et donc, le sage, c'est celui qui accepte le destin joyeusement, et qui ne le subit pas en se révoltant lorsqu'il ne peut rien faire. Et c'est celui qui peut effectivement vivre dans une absence de trouble parce qu'il vit un certain détachement par rapport à ce qui lui arrive. Alors pour mieux comprendre cette philosophie stoïcienne, il y a des images qui sont très parlantes. La première chose, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un fatalisme. Puisque dans le fatalisme, on pourrait dire « tout ce qui arrive, c'est bien, ne changeons rien ». Non. Épictète, qui est un des plus grands représentants du stoïcisme romain, stoïcisme plus tardif, qui a vécu au 1er siècle, qui lui-même est un esclave, Épictète va nous expliquer qu'il s'agit de discerner ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous et qu'on peut changer, donc, il faut le changer si on peut l'améliorer. Par exemple, si j'ai un vice, je vais le transformer en vertu. Si je suis intempérant, que je ne peux pas m'empêcher de manger trop, que je suis gourmand, je vais essayer de maîtriser ma gourmandise. Si j'ai une maladie et que je peux trouver un remède pour me soigner, je vais me soigner. Donc tout ce qui relève de ma possibilité, de ma volonté, de ma responsabilité, il m'incombe de le faire. Mais lorsque je ne peux rien faire, lorsqu'il m'arrive une maladie incurable, lorsque j'ai un accident, j'ai une jambe sectionnée, lorsque je suis déshonoré, il y a une cabale contre moi, il m'arrive une injustice, lorsque je perds un proche, un deuil, et je ne peux rien y faire. Et donc c'est là qu'intervient la notion d'acceptation du destin. C'est lorsque les choses ne dépendent pas de moi, il est essentiel pour être heureux, c'est-à-dire pour être dans l'absence de troubles, de les accepter joyeusement et de ne pas se soumettre en étant soi-même en colère, en révolte contre le destin. Et il nous donne un exemple qui est très connu mais qui est très parlant, c'est celui d'un chien qui est tiré par un chariot. Donc le chien est attaché derrière le chariot et c'est le chariot qui imprime le mouvement, la direction. Le chien ne peut rien choisir, il ne peut que suivre le chariot. Et là, nous dit Épictète, il y a deux solutions. Ou alors il va résister, tirer, parce qu'il n'a pas envie forcément d'être entraîné sur le chemin que va choisir le chariot. Et donc, de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que la force du chariot, la force du destin est beaucoup plus forte que sa volonté. Et donc, il va arriver épuisé, peut-être en lambeaux parce qu'il aura cherché à résister, il se sera fait saigner le cou, etc. Et il sera en plus en colère. Alors que celui qui comprend qu'il ne peut rien faire, il va gambader derrière le chariot, et il arrivera beaucoup moins épuisé, il n'aura pas souffert, et en plus, il ne sera pas de mauvaise humeur, parce que finalement, il aura accepté librement son destin. Donc on voit bien que la philosophie stoïcienne, c'est vraiment très subtil. On pourrait dire, oui, mais si on accepte son destin, on n'a pas le choix. Si, on n'a pas le choix de son destin, mais on a le choix de l'accepter ou non. Et il y a une autre image qui est utilisée, qui est l'image de l'acteur. Au fond, pour les stoïciens, un acteur, il ne choisit pas son rôle. Il s'agit de bien ou de mal le jouer. Et ils nous disent dans la vie, c'est exactement pareil. On ne choisit pas, ce n'est pas nous qui avons écrit notre rôle. C'est le destin qui a écrit notre rôle. Il y a des événements qui vont nous arriver, on ne les a pas choisis. Mais nous sommes libres de bien jouer notre rôle, c'est-à-dire de consentir librement et de le faire joyeusement, et du coup avec plaisir, et du coup avec joie, avec cœur, ou de sans arrêt râler, accepter ce qui est agréable, mais refuser ce qui est désagréable. Et lorsqu'on ne peut rien y faire, finalement, si on est sans cesse en lutte contre le destin, contre l'inévitable, on jouera mal notre rôle. Donc le sens de la vie humaine, c'est d'arriver non pas à créer son rôle, mais c'est d'arriver à jouer son rôle du mieux possible, en changeant ce qui dépend de moi, et en l'améliorant, et en acceptant joyeusement et librement ce qui ne dépend pas de moi. Donc voilà l'essentiel du bonheur pour les stoïciens, et on voit que c'est une philosophie très profonde de l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer, et c'est une philosophie, on pourrait dire, du détachement, d'un détachement qui nous permet d'être en permanence dans une humeur, dans un état d'être égal, ce qu'on appelle l'ataraxie. C'est une absence de trouble parce que justement on prend tout joyeusement et on ne refuse pas ce qui nous apparaît comme une épreuve ou comme difficile lorsqu'on ne peut pas l'éviter.
Vous avez un an pour podcaster cette émission et 1000 jours pour la réécouter sur notre site. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.